Religion du monde. Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a 70 ans, le 14 mai 1948, David Ben-Gourion déclarait l'indépendance de l'État d'Israël. En réalité, les bases du nouvel État étaient jetées depuis la fin du XIXe siècle avec l'installation de foyers juifs et d'organisations diverses. Mais ce jour-là, l'histoire du Proche-Orient et du monde a pris un cours nouveau. Quel bilan historique dressé de ces 70 ans, c'est le dossier de la Croix de ce week-end. Et dans le cadre de notre partenariat avec Le Quotidien, nous recevons Marianne Meunier en charge du Moyen-Orient au Service Monde. Puis nous irons à la rencontre d'une famille juive installée en Israël depuis le début des années 50. Esther Kavibor et ses deux filles, Vardit et Glilia. Esther Kavibor, 85 ans, fait partie de ces juifs profondément marqués par la Shoah et qui, animés par l'idéal sioniste laïque, vont partir à l'aventure dans les années 50, s'installer en Israël dans un kibboutz situé près de Gaza où elle vit toujours. Elle est venue en France pour la pose d'une stèle à la mémoire d'une partie de sa famille déportée et morte à Auschwitz. Marianne Meunier, bonjour.
Bonjour.
70 ans d'histoire et de tumulte, c'est le titre de votre dossier ce week-end, avec cette phrase en marge, Israël, 70 ans après sa création, est bien différent de l'État rêvé par les pionniers qui l'ont créé. Alors, bien différent, vous mettez le curseur où, Marianne Meunier?
Mais effectivement, l'État d'Israël a été longuement rêvé et longuement attendu, puisque c'est à la fin du 19e siècle qu'ont commencé à arriver les pionniers, et c'est seulement en 1948 que l'indépendance a été proclamée. Donc il y avait un projet quand même assez élaboré et surtout mû par beaucoup d'aspirations. Je dirais que la plus importante et celle qu'on retrouve le moins aujourd'hui, c'est l'aspiration à l'égalitarisme que l'on relève particulièrement dans les kibboutz, donc une forme d'organisation collectiviste du travail et même de la vie avec une mise en commun des ressources et des fruit du travail. C'était très prestigieux au début d'Israël d'être un kibboutznik et ça l'est quasiment plus aujourd'hui. Le nombre de kibboutz est beaucoup moins important et la figure des membres des kibboutz a énormément perdu son prestige et la société israélienne est beaucoup moins égalitaire que ne l'avaient rêvé les pionniers. Il y a à peu près 20% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est pour moi une des différences les plus importantes.
Alors, on va revenir à la création de l'État d'Israël en 1948. Il y a une allusion religieuse, mais on voit quand même que c'est une création d'un État qui se veut laïque. Même si, effectivement, David Ben-Gourion, on va en parler, a dû faire quelques concessions.
Effectivement, c'est un État qui se veut laïque, mais comme le dit un historien que nous avons interrogé, il savait bien qu'il ne pouvait pas fonder l'État d'Israël sur des seules structures étatiques et il fallait du symbole, il fallait de la spiritualité. Et c'est pourquoi il a accordé cette concession dans la déclaration d'indépendance avec une référence indirecte à Dieu sous la forme de l'expression « rocher d'Israël ». Et également une autre concession, c'est celle qu'il a accordée aux étudiants des écoles talmudiques d'être dispensés du service militaire. Mais la religion à l'époque n'occupait pas du tout la place qu'elle occupe aujourd'hui.
David Ben-Gourion était un pragmatique.
Voilà, c'est ça. C'était un pragmatique et son objectif, c'était de créer l'État d'Israël. Et donc, s'il fallait faire des concessions avec les rabbins, notamment pour la déclaration d'indépendance, il les faisait.
Dans un climat de sionisme laïque.
Dans un climat de sionisme laïque, effectivement, les pères fondateurs ne portaient pas la kippa, n'avaient pas une pratique démonstrative ou en tout cas publique de la religion. Pour Ben-Gourion, même les lieux saints n'étaient pas du tout le fondement d'Israël. Le fondement, c'était aussi une idéologie socialiste, collectiviste, et il s'agissait de bâtir un État, mais même au sens propre, c'est-à-dire de trouver des sources de revenus, de le nourrir. C'est pour ça que les kibboutz ont été construits. Ils l'ont été aussi pour investir le territoire du nord au sud, même jusqu'au sud d'Israël, dans le Negev.
Alors, on ne va pas toutes les citer, mais vous avez pris le parti
de prendre 10 dates. C'est vrai que c'est très compliqué hein, de résumer l'histoire d'un pays comme Israël. C'est très compliqué. Donc, vous avez choisi 10 dates sur lesquelles, d'ailleurs, on peut revenir, un peu discuter. Il en manque, à mon avis, certaines, mais ça, vous nous direz pourquoi. Alors, j'ai pas cité toutes les 10 dates, mais il y en a quand même certaines, évidemment, qui sont très fortes. 1948, bien sûr. 1967, évidemment, hein, la guerre des six jours. 1977, le virage à droite. On viendra dessus. 1987, le début de l'intifada, 6 ans. Les heures sombres, 1995, l'assassinat d'Yitzhak Rabin, 2 ans après les accords d'Oslo. Et puis, on ira vers les années 2000, la nouvelle intifada, 2014, le sursis pour l'exemption du service militaire pour les ultra-orthodoxes. Mmh. Et puis, 2017. Pour 2017, vous ne vous êtes pas arrêté sur Jérusalem hein, et le transfert, l'annonce par Donald Trump du transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Vous avez intitulé ce paragraphe « Les hautes technologies ». Pourquoi ?
En fait, on n'a pas choisi de retenir le transfert de l'ambassade parce que, d'une part, il a fallu faire des choix et on ne pouvait pas être exhaustif. D'autre part, la question de Jérusalem était un peu en gestation dans la date de 1967, puisqu'en 1967, avec la guerre des six jours et l'annexion de Jérusalem-Est, on a déjà
le processus en route.
Le processus en route. Et aussi, s'attacher aux nouvelles technologies, c'était important parce que c'est un nouveau visage d'Israël et c'est un visage qu'Israël cherche à promouvoir à l'étranger. D'ailleurs, le thème que l'État a donné aux célébrations de l'indépendance cette année, c'est Startup Nation. Et c'est vraiment l'image qu'Israël veut promouvoir, qui aussi a le mérite d'occulter bien des problèmes. Et un des problèmes notamment, ce sont les inégalités dont je parlais tout à l'heure. Donc d'un côté, on a des startups israéliennes qui se vendent des milliards de dollars à l'étranger, en l'occurrence Mobileye, qui est une société spécialisée dans les systèmes anti-collision, qui s'est vendue pour 12 milliards d'euros en 2017, c'est pour ça qu'on a choisi cette date. Donc d'un côté il y a ça, il y a une richesse insolente, et de l'autre, très peu de partage et de redistribution de ces richesses puisque Israël a fait un choix économique et libéral en 1977 avec le Likoud.
Alors, ce que l'on apprend effectivement dans ce dossier, Marianne Meunier, c'est que il bat quand même en brèche une idée reçue, celui d'un pays où il n'y avait rien, qui était totalement aride, où effectivement les plantes ont poussé dans le désert. C'est quand même une immense réussite grâce à la technique du goutte à goutte. Mais en fait, ce pays, il y avait quand même des champs qui étaient cultivés. Et c'est un agronome qui vous en a parlé, qui figure dans ce dossier.
Oui, effectivement, cet agronome, donc Pierre Blanc, explique bien que le fleurissement du désert que l'on prête aux Israéliens et que certains s'attribuent, c'est tout à la fois une réalité et un mythe. C'est une réalité parce que les Israéliens ont eu le grand mérite d'éradiquer le paludisme, dont la présence au début du XXe siècle rendait l'image d'Israël très inhospitalière. Donc ils ont eu ce mérite-là, ils ont eu bien d'autres mérites en matière agricole, mais la Palestine était quand même une terre exploitée par les Palestiniens. Il y avait des cultures, et souvent, ces terres étaient la propriété de propriétaires libanais ou syriens. Mais il y avait bien une agriculture palestinienne, ouais.
Ce que revendiquent les Palestiniens aujourd'hui, oui, en disant que cette terre n'était pas inoccupée, elle était cultivée aussi.
Exactement, parce qu'en fait, le fait de dire que cette terre n'était pas cultivée et que les Israéliens ont fait fleurir le désert confirme implicitement cette phrase qu'on entend souvent, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. C'est pour ça que effectivement les Palestiniens n'acceptent pas du tout l'idée que ce sont les Israéliens qui ont fait fleurir le désert.
Même si cette technique du goutte à goutte effectivement a fleuri à travers le monde.
Effectivement. Oui, comme un certain nombre d'innovations israéliennes, elles se sont répandues.
Alors, 1967, bien sûr, la guerre des six jours, date incontournable.
Oui, c'est incontournable parce que c'est à partir de ce moment-là que Israël a commencé. Énormément accru d'un point de vue territorial. Et puis, c'est un moment de bascule où, en fait, la figure du colon a commencé à prendre son essor et à gagner son prestige, puisque, ayant gagné une partie de la Cisjordanie, ayant le plateau du Golan et d'autres territoires, et Gaza, Israël a eu là l'occasion de s'étendre et de peupler de nouvelles terres. faire?
Alors, ce que l'on apprend quand même, c'est que à ce moment-là, un compromis aurait été possible. Ça n'est pas vraiment su du grand public, c'est-à-dire que, semble-t-il, à vous lire, eh bien, il y a eu un moment où Israël aurait pu restituer ses terres contre la reconnaissance de son État.
Bah, c'est-à-dire que au lendemain de la guerre des six jours, donc qui a été une victoire inattendue pour les Israéliens, puisque dans la période qui précédait, ils imaginaient qu'ils allaient disparaître. Ils redoutaient même un nouveau génocide. Il y a ces trois semaines qu'on appelle la période d'attente qui ont précédé la guerre des six jours, pendant lesquelles il y avait une panique très importante parmi les Israéliens, qui a été un peu instrumentalisée d'ailleurs aussi par les responsables politiques. Et puis au bout de six jours de guerre, ils ont terrassé les armées arabes et ils se sont retrouvés à la tête d'un territoire qui avait quasiment quadruplé. Donc les Israéliens ont presque été incrédules devant leur propre victoire et imaginé que cela pourrait être un instrument de négociation avec les Arabes. Par exemple, on vous rend telle ou telle partie, mais en contrepartie, vous reconnaissez Israël. Mais au sommet de Khartoum en août et septembre 1967, les Palestiniens ont refusé toute négociation et toute reconnaissance d'Israël. Donc peut-être qu'on peut dire que oui, d'une certaine manière, c'est une occasion manquée pour les Palestiniens.
Il y en a eu d'autres.
Mais il y a eu l'occasion de 1947 où il y avait le plan de partage de la Palestine qui a été approuvé par les Nations Unies et qu'ont refusé les pays arabes et les Palestiniens. Bon, à l'époque, les Nations Unies, c'était quand même une institution naissante, oui. Très jeune. Il faut vraiment replacer les choses dans leur contexte. Pour dire que c'est une occasion manquée, c'est à nuancer quand même.
Alors, ce qui est intéressant, c'est cette image, j'allais dire, donnée par l'historien Shlomo Sand, qui dit voilà, la figure du kibboutzine est remplacée par la figure du colon avec une kippa sur la tête.
Et oui, comme je vous disais tout à l'heure, la figure du membre du kibboutz était assez prestigieuse et attractive, et effectivement, celle-ci a été remplacée par la figure du colon qui sert en quelque sorte l'idée d'Israël, puisque la Judée-Samarie, donc le nom biblique de la Cisjordanie pour les Israéliens, donne l'occasion de reformer l'unité perdue en fait du territoire hébreu.
Même si ça n'est pas dit implicitement dans votre dossier, Marianne Meunier, la montée du sionisme religieux est présente dans les dates que vous donnez. Et notamment, on l'évoquait tout à l'heure, la question du sursis pour les exemptions du service militaire pour les ultra-orthodoxes. Bon, dès le départ, dès la création de l'État d'Israël, les ultra-orthodoxes effectivement étaient exemptés au service. Et puis finalement, comme ils sont de plus en plus nombreux, ça pose un véritable problème aujourd'hui. Et l'État a essayé de gommer ce sursis et voilà, que tout le monde soit finalement amené à pouvoir servir l'État pendant 32 mois, c'est cela, hein?
Oui, 32 mois pour les hommes et un peu moins pour les femmes. Effectivement, le service militaire, donc c'est quelque chose de très important en Israël. L'armée est déterminante également. Lorsque Ben Gourion a accepté cette exemption en 1948, les élèves des écoles talmudiques étaient à peu près 400. Ils sont à peu près 40 000 aujourd'hui. Donc, il y a une forme d'inégalité entre les jeunes Israéliens de ce point de vue-là, qui est devenue patente. Et puis, par ailleurs, le service militaire est considéré comme un moyen pouvant permettre à ces jeunes ultra-orthodoxes de s'intégrer dans la société, d'apprendre un métier, puisque du fait de leurs études et de leur affiliation ultra-orthodoxe, ils ne travaillent pas. Et c'est aussi un gros problème économique et un problème d'intégration pour Israël aujourd'hui. Et on a choisi cette date pour montrer justement que le visage de la société israélienne avait changé, puisque aujourd'hui les ultra-orthodoxes globalement sont à peu près 10% de la population, soit à peu près 800 000 habitants en Israël. C'est un changement très important par rapport à 1948.
Est-ce que c'est précisément cette montée du sionisme religieux qui explique en partie l'impossibilité de faire la paix aujourd'hui?
Alors déjà, les ultra-orthodoxes, c'est quand même un groupe qui n'est pas homogène.
Absolument,
et oui. Tous ne sont pas sionistes, puisque une partie d'entre eux ne reconnaissent même pas l'État d'Israël, en ce sens que c'est seulement Dieu qui pourra le permettre son avènement.
Mais ils sont minoritaires. Les ultra-orthodoxes sont quand même minoritaires par rapport aux orthodoxes, j'allais dire,
oui,
au monde orthodoxe juif.
Effectivement, en fait, ils pèsent un poids politique assez important.
important. Ils ont le pouvoir de faire et de défaire des coalitions qui sont par principe assez fragiles en Israël. Et pour ce qui concerne cette exemption du service militaire, c'est symptomatique puisque encore tout dernièrement, hein, au mois de mars cette année, ils ont menacé de retirer leur soutien à Benjamin Netanyahou si l'exemption de service militaire prenait fin. Oui.
Est-ce que c'est ça qui bloque la paix aujourd'hui? Est-ce que c'est la religion qui bloque la paix aujourd'hui? La sacralisation de la terre.
Oui, ça y contribue, mais oui, je pense que ça y contribue. Mais il y a côté palestinien aussi, il y a des choses qui bloquent la paix. Mais c'est aussi la religion d'une certaine manière, puisque les Israéliens refusent de négocier avec le Hamas, qui est un mouvement islamiste. Donc, d'une certaine manière, oui, la religion bloque la paix des deux côtés.
Je vous remercie, Marianne Meunier. Je rappelle que vous signez donc le dossier sur les 70 ans d'Israël dans les pages donc de la Croix ce week-end. Merci.
Merci à vous.
Religion du monde, Geneviève Delrue.
Mesdames et messieurs, les membres de la famille Angèle, en ce dernier dimanche d'avril, nous sommes réunis pour cette journée nationale des souvenirs des victimes et des héros de la déportation. La commémoration de cette année 2018 revêt une importance particulière car nous allons rendre hommage à une famille entière réfugiée à Taron qui a été victime de la Shoah, la famille Angèle.
Dimanche 29 avril, Irène Geoffroy, maire de Saint-Michel-Chef-Chef, une commune balnéaire de Loire-Atlantique, visage grave, voix nouée par l'émotion, s'apprête à dévoiler une stèle sur l'esplanade de la plage de Taron, à la mémoire de la famille Angèle. 9 membres de cette famille, un couple et leurs 7 enfants, le plus jeune âgé de 2 ans, ont été raflés le 17 juillet 1942, au même moment que la rafle du Veldiv à Paris, et ont péri à Auschwitz. Originaire de Turquie, arrivée en France au début du XXe siècle, installée à Lille, la famille Angèle était venue se réfugier à l'automne 1939 à Taron, où ils avaient passé des vacances et où ils se pensaient en sécurité. La tragédie de cette famille serait restée méconnue sans le concours et la rencontre de plusieurs personnes qui se sont impliquées à la faire sortir de l'oubli. Parmi elles, Catherine Delrue, professeure d'histoire, qui a fait travailler ses élèves de seconde sur l'histoire et la mémoire de la Shoah. Leurs recherches auprès des archives départementales de Nantes ont fait l'objet d'une exposition de photos et d'une vidéo. L'indispensable travail de mémoire, c'est ce qui a motivé la maire de Saint-Michel-Chef-Chef à adhérer tout de suite au projet d'une plaque commémorative.
Dans quelques années, les rescapés des camps ne seront plus là pour témoigner. Il appartiendra alors aux jeunes générations de rappeler cette effroyable tragédie et de perpétuer cet indispensable devoir de mémoire. C'est précisément ce qu'ont fait les élèves du lycée professionnel Chassagne de Paimbœuf avec leur professeur, Madame Catherine Delrue, qui a cherché à faire comprendre à ses adolescents ce qu'a représenté ce drame avec l'exemple concret de la famille Angèle, réfugiée à Taron. Les recherches ont particulièrement porté sur la jeune Esther, une adolescente de leur âge. Pour rendre hommage à cette famille, la commune a fait édifier une stèle et a décidé de donner le nom de Esplanade Angèle à cet espace, à proximité des jeux d'enfants, face à l'océan qui appelle au recueillement.
Parmi la quinzaine de membres de la famille Angèle, présents toutes générations confondues, Marion a pris la parole.
Je suis heureuse de savoir que ma famille, par cette stèle, symbolise la sépulture pour tous les autres déportés. Quel bel endroit pour les accueillir, face à la mer, face à l'avenir. Ainsi, leur mort n'est plus un chant funèbre, c'est l'appel profond au combat pour la vie. Merci.
La Marseillaise, une minute de silence, puis la lecture des noms des disparus et le Kaddish, la prière pour les morts dans la liturgie juive récitée par le rabbin de Nantes. Entre larmes et sourires tristes, la cérémonie s'est refermée sur l'hymne national d'Israël chanté par l'Assemblée. Parmi les 15 membres de la famille Angèle, Esther Kevibor et ses deux filles étaient venues spécialement d'Israël pour la cérémonie. Esther n'a jamais connu ses cousins, cousines, oncles et tantes et elle a voulu leur rendre hommage. Esther Kevibor et ses deux filles illustrent l'histoire singulière d'Israël, où elle est venue s'installer avec son mari Bernard juste après la guerre. Bernard qui avait perdu son père au camp de Treblinka.
Je m'appelle Esther Kevibor. Je vis en Israël dans un kibboutz qui s'appelle le kibboutz Hatzor. J'ai 85 ans. Je suis grand-mère de 12 petits-enfants et de 6 arrière-petits-enfants.
Alors, vous êtes venue pour un événement familial très fort. Vous avez voulu faire le déplacement.
Oui, quand j'ai appris ce projet de mettre une stèle au nom de ma tante Lucie Angèle et de ses 7 enfants qui ont été déportés, j'ai été tellement émue de cet honneur qu'on faisait à ma famille que je me suis sentie l'élan de venir, malgré mon âge et malgré mes difficultés, de venir et d'être présente à cette cérémonie qui pour moi était vraiment un grand événement. Je n'ai pas connu mes cousins, mais on en parlait tellement dans la famille. C'était un drame que ma tante, mon oncle et leurs 7 enfants ont été déportés. Ils en ont tellement parlé. Mes parents en parlaient très souvent. C'était comme si je les connaissais, mais je ne les ai pas connus. Et j'ai toujours eu ce manque de n'avoir pas connu cette famille.
Vous allez partir en Israël avec votre mari. Vous allez faire votre vie en Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclic? Au sortir de la guerre, qu'est-ce que vous allez faire?
On est revenu quelques années après la guerre. On a retrouvé notre logement qui avait été scellé.
À Paris donc?
À Paris, et qui avait été volé. Et comme j'étais fille unique, mes parents ont tout fait pour que je fasse mes études, pour que j'apprenne la musique, que j'apprenne le violon. Papa était très musicien. Il venait d'une famille bourgeoise en Turquie. Son père était musicien. Et tous ses frères et sœurs jouaient des instruments de musique, et lui-même. Et ils ont tout fait pour que je fasse mes études et que j'ai une bonne situation. Seulement, moi, je cherchais un idéal. Après la guerre, j'ai été très traumatisée par ce qui s'est passé dans ma famille. Et je cherchais un mouvement de jeunesse. Je l'ai trouvé, après quelques recherches, je l'ai trouvé dans un mouvement qui s'appelle la Shomer HaTzair. C'était un mouvement socialiste, sioniste. Et c'est là que j'ai commencé à avoir l'idéal sioniste. Et j'ai eu... c'est aussi là que j'ai connu mon mari et qu'on a fait le vœu d'aller en Israël, d'y fonder notre famille. Et je l'ai réalisé, ce vœu. Je l'ai réalisé en 52 et dans un kibboutz. Tout d'abord au kibboutz d'Alia. Et ensuite, on a été avec un groupe de jeunes, on a été au kibboutz Hatzor. Alors, le kibboutz Hatzor était plus jeune, très dynamique, et on s'est retrouvés quelques Français, un petit groupe de Français. Et on nous a réunis avec un autre groupe de Tunisiens marocains, et on était déjà un grand groupe. On voulait bâtir un nouveau kibboutz. On était très idéalistes. Le kibboutz avait besoin qu'on travaille. Et mon mari, c'était dans l'agriculture. Moi, c'était dans toutes sortes de travaux. L'agriculture aussi, l'orangerie, le poulailler et surtout les maisons d'enfants. La vie n'était pas facile. Et on travaillait 9 heures par jour. On travaillait, mais on était tellement plein d'idéal. On était jeunes. Alors tout était plus facile. Et puis on dansait, on chantait, on était jeunes. le kibboutz, c'était, avait une vie communautaire. On n'avait pas d'argent. Nos enfants étaient éduqués en commun, c'est-à-dire il y avait une responsable, une femme qui travaillait avec eux, et ils étaient dans leur maison d'enfants le jour et la nuit. Les parents travaillaient et les parents avaient des activités au kibboutz et ils venaient voir leurs enfants et les enfants venaient les voir, mais la vie des enfants était surtout dans leur maison d'enfants. Mais les enfants vivaient très bien et ils étaient habitués à cette vie. Ils se sentaient bien dans leur groupe et les parents se sentaient quelquefois un peu frustrés. Mais ils acceptaient cela comme ils acceptaient toutes les choses que le kibboutz leur demandait. Mais après la guerre de Kippour, les mamans ont voulu avoir leurs enfants avec eux. C'était trop grave, la situation était très tendue. Et depuis ce moment-là, les enfants vivent au kibboutz, c'est-à-dire ils logent chez leurs parents. J'étais moi-même, j'ai travaillé dans les maisons d'enfants, et je dois dire qu'on avait des moments agréables, et c'était pas si terrible que ça.
Qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté dans le kibboutz? Parce que vous auriez pu partir, vous auriez pu chercher une forme de vie plus indépendante avec votre mari et vos enfants. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté?
Bon, effectivement, il y en a pas mal qui ont quitté le kibboutz. Surtout les Français, ils étaient difficilement adaptables. Mais on avait quand même l'idéal de notre kibboutz, de vivre au kibboutz. Et puis finalement, on s'est habitué à cette vie. Et puis, je peux dire que je ne suis pas malheureuse au kibboutz. J'y vis jusqu'à aujourd'hui. Et je peux vous dire que j'habite un bel endroit. C'est une sorte de parc avec des pelouses, des arbres, des fleurs. Et en tant que personne âgée, j'ai plus la vie difficile du travail, mais j'ai mes activités et on n'est pas malheureux. Mais souvent, on a des ennuis de sécurité.
Oui, vous avez aussi les tirs de roquettes. Là, vous êtes. Rappelez-nous le nom de votre kibboutz.
Le kibboutz Hatzor se trouve pas très loin de la mer, mais pas très loin de la ville d'Ashdod, qui n'est pas loin de Gaza, et qui reçoit de temps en temps des roquettes. Seulement, heureusement, on a fabriqué en Israël des missiles anti-roquettes qui sont très effectifs.
Alors, vous dites, moi j'ai tout dans mon kibboutz, j'y suis bien, ce qui nous manque, c'est la paix.
Exactement, c'est mon vœu le plus grand. Je voudrais laisser un pays à mes enfants. Je voudrais laisser un pays en paix. Parce que on n'arrive pas à finir ce conflit. Je comprends très bien les malheurs de ce peuple palestinien. Je comprends très bien qu'ils veuillent avoir aussi leur pays. Mais on a le droit d'avoir le nôtre. Après tout ce qui s'est passé, on a le droit. On nous a donné un pays et depuis qu'on y est, il y a la guerre. Une guerre après l'autre. On en a marre de ces guerres. On voudrait trouver une entente, une paix. Ce serait bien pour les deux peuples. J'espère qu'on y arrivera. Moi, j'ai pas perdu l'espoir. Mais pour le moment, on voit rien à l'horizon. Peut-être que nous, on n'a pas réussi à trouver la solution. J'espère que nos enfants la trouveront. Je sais qu'elle viendra un jour. Cette solution de paix.
L'espoir, malgré tout, d'Esther Kavibor. Esther Kavibor est venue en France accompagnée de ses deux filles, Vardit et Glilia, toutes deux mères de 6 enfants. Vardit et Glilia, comme leurs frères, ont grandi dans un kibboutz. Seule Vardit a quitté le kibboutz de son enfance pour aller vivre à Jérusalem avec son mari et sa nombreuse famille. Vardit a 58 ans, elle est orthodoxe, un chemin à l'opposé de l'éducation laïque reçue de ses parents. Elle revient sur ce parcours.
Depuis le jeune âge, j'ai posé des questions. Des questions pour savoir, j'étais très curieuse. Et à l'âge de 12 ans, nous sommes partis en mission à Lyon et j'étais dans une école française. Et c'est là que mon identité juive s'est révélée. Et pourquoi ? C'était justement la guerre de Kippour. Et un jour, le prof de français, Madame Colombo, a ouvert le journal d'aujourd'hui et m'a demandé qu'est-ce que ça veut dire Kippour. Et moi, je ne savais pas l'expliquer. Pas pour moi en hébreu et pas pour elle en français. J'avais la langue française déjà, mais je ne savais pas lui expliquer. Et ça m'a remué l'identité. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis juive, je suis israélienne et je ne peux pas dire ce que c'est Kippour. À notre retour en Israël, j'ai fait des petits pas de s'approcher au judaïsme. Je me suis intéressée, je suis allée chez des cousins qui étaient pratiquants pour le samedi. Et comme ça, j'ai commencé à lire. Et encore une chose, c'est que à l'âge de 15 ans à peu près, et je me suis dit, j'ai vu dans le journal qu'on jeûne le Kippour. Je ne savais pas qu'on jeûne. Alors je me suis dit, moi je veux appartenir au peuple d'Israël. Je veux être comme tout le monde. Je ne veux pas être à part. Et j'ai commencé à jeûner le Kippour. Et vers 18 ans, j'ai commencé à faire Shabbat, garder Shabbat. Et je ne savais pas ce qu'on fait. Je savais qu'on n'allume pas la lumière, qu'on ne fait pas le manger, et je savais qu'il y a des livres spéciaux qu'on lit. Mais je ne savais pas qu'est-ce qu'on fait. Et peu à peu, avec les années, je me suis toujours intéressée, étudiée, toujours.
Alors, est-ce que c'était davantage une adéquation avec l'identité juive que vous vouliez affirmer? Ou bien est-ce que la question de la transcendance, de la spiritualité, entrait à part égale avec cette question de l'identité?
D'abord, c'était l'identité, c'est sûr. C'est que je voulais appartenir au peuple d'Israël. Et après, j'ai commencé à comprendre que le peuple juif a une Torah. Et Torah, c'est pas seulement des histoires et sympathique, et ce sont des événements qui ont eu lieu à notre peuple et qu'on doit savoir, on doit les étudier. Et j'ai commencé à lire chaque semaine et on lit un passage de la Torah. J'ai commencé à lire toutes les semaines parce que j'ai vu dans le journal qu'il y a des commentaires sur ce qu'on lit. Et chaque semaine, j'ai commencé à lire. Après, j'ai connu mon mari. Et en fait, la seule chose que j'ai faite, c'est de lire ses commentaires pendant Shabbat, le samedi. Mais peu à peu, on a commencé à s'intéresser. Et mon mari, il a son chemin aussi. Il est aussi d'un kibbutz à Shomer HaTzair. Mais lui aussi, il a commencé à s'intéresser, mais...
Lui aussi, donc, ses parents étaient des sionistes, laïcs, tout à fait éloignés de la religion, comme oui. Vous, comme les vôtres.
Oui, c'est ça. Mais à l'âge, à très jeune âge, il a commencé à sentir qu'il y a quelqu'un qui le regarde. Il a commencé à sentir qu'il y a quelque chose, que... Les gens qui sont là, qu'on voit, c'est pas tout ce qu'il y a. Il y a encore autre chose. Il est venu du côté spirituel. Et moi, je suis venue du côté et de communautaire, de peuple, de appartenance, de... Et peu à peu, j'ai compris que c'est très bien d'être juif en Israël, mais il faut en mettre quelque chose dedans. Il faut mettre de la valeur à notre identité ici. On ne peut pas rester sans savoir pourquoi on est là. Ça ne suffit pas d'être juif pour continuer à rester juif. Et surtout que peu à peu, j'ai compris que ma famille a passé des moments pas faciles étant juif. Et la Shoah m'intéressait beaucoup. J'ai lu beaucoup. Ça m'a intéressé moins du point de vue historique, mais plus du point de vue humain. Qu'est-ce qui est arrivé aux gens? Comment ils s'en ont sortis? Comment ils étaient courageux? Lire sur la Shoah, pour moi, ça m'a donné la vie. Parce que chacun qui est sorti de là-bas, il a reçu sa vie en cadeau. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Quel message il a donné au monde?
Est-ce que vous avez reproché à vos parents de ne pas vous avoir donné une éducation religieuse?
Je n'ai pas reproché, mais j'ai essayé de les convaincre au début.
Ça n'a pas marché.
Oui, Dieu existe. Regardez, le peuple d'Israël tient grâce à la Torah, grâce aux fois et la croyance en Dieu. Pas vraiment comme ça, mais à peu près. J'essayais de leur prouver, parce que ça peut être prouvé. Mais ça n'a pas marché. Mais ce qui a marché, c'est qu'au fil des années, mes enfants, qui aiment vraiment, vraiment leurs grands-parents, ont fait le lien, parce que mes parents m'ont pas très bien accepté. Et moi, j'ai trouvé au début la façon de m'éloigner pour me renforcer, pour avoir ma place.
Il y a eu un moment de tension entre vous?
Oui, il y a eu. Ils n'ont pas accepté ma vie, mais j'ai eu la patience. Et au fil des années, on a trouvé la voie d'être en très bonne communication et d'accepter un l'autre, et d'aimer un l'autre, et d'apprécier chacun ses choix, ses caractères. Et j'aime beaucoup ma famille. Et je remercie presque tous les jours, si pas tous les jours, la famille que j'ai reçue, les parents que j'ai reçus, l'éducation des kibbutz que j'ai reçue, que je suis née juive. Tous les jours, je remercie.
Alors, on terminera par la question qui bouleverse hein, votre mère, on l'a entendu tout à l'heure, la question de la paix. Comment voyez-vous cette question de la paix, vous? C'est ce que dit votre mère, ce qui manque à Israël, c'est la paix.
Ose shalom bimromav, uberachamav yase shalom alenu ve'al kol Israël. Celui qui fait la paix dans les cieux, c'est lui qui va faire la paix entre nous et avec tout le peuple d'Israël. C'est ça, c'est la phrase qu'on dit tous les jours. Et on doit être unis autour de la Torah, de la croyance, de l'éducation juive. Il y a des centaines de familles, milliers de familles qui élèvent leurs enfants sans politique et sans savoir que ce qui se passe dans le monde et dans... Mais ils savent qu'ils sont sur la bonne voie. Et ils font le travail quotidien et dur d'élever les enfants dans la voie de la Torah. La base, c'est la Torah.
Quand vous dites finalement, si je comprends bien, c'est par la Torah que peut l'application de la Torah, que peut advenir la paix, d'autres vous répondront que si on lit la Torah d'une certaine façon, la terre ne peut pas être partagée. Alors quelle lecture faire de la Torah?
Je ne suis pas ministère de la Défense et je n'ai pas de solution politique. Mais je peux dire que beaucoup s'entendent bien quand ils voient une identité claire. Nous, on a des phrases très précises dans la Torah. Lecha eten et haaretz hazot, cette terre à vous a été donnée. Et on a plusieurs, c'est marqué dans la Torah. Et non seulement c'est marqué, mais le peuple juif a gardé ce souvenir et cet espoir de retourner un jour à Jérusalem, de retourner un jour au pays d'Israël. Et le peuple d'Israël existe grâce à ce lien entre trois choses. C'est le peuple, la Torah et le pays, pays d'Israël. Et ça, c'est trois fils qui font quelque chose qui est très très fort et que c'est notre place. Ici, on a une partie de notre âme, de notre passé et de notre futur. On est là.
Vardit Glilia, 55 ans, est mère de 6 enfants, mais pas pour des convictions religieuses. Glilia vit avec son mari Doudi dans le kibboutz de son enfance, après avoir passé quelques années en Italie. Alors pourquoi ce choix économique, difficile malgré tout, de vivre dans un kibboutz ?
On voulait retourner au kibboutz parce que mes parents y étaient, mon frère y était, mon mari était idéaliste, il voulait vivre dans un kibboutz et on est retourné au kibboutz et on vit là-bas depuis 1997. Les gens sont connus, il y a moins de voitures, les enfants sont libres à aller et à leurs amis et c'est comme un petit village et très esthétique, beaucoup de jardins, très verts. Et beaucoup d'arbres. Et c'est une bonne place pour éduquer les enfants.
La religion, c'est comme vos parents, vous êtes laïque, non croyante, non pratiquante ?
Non, pas exactement. Je vis dans un kibboutz très laïque, quelquefois contre la religion. Mais moi, je ne pratique pas, mais quand même, je suis très croyante. Je ne pratique pas, mais je sais qu'il y a quelque chose au-dessus de moi. Je ne pratique pas comme les religieux pratiquent.
C'est-à-dire ?
Bon, ils ont leurs règles, comment s'habiller, quoi faire le Shabbat. Je ne fais pas ça. Mais je crois qu'il y a quelque chose au-dessus de nous.
Ces règles, vous les trouvez contraignantes ?
Ce n'est pas quelque part de ma vie. Je ne pense pas que ma croyance, elle tient à ces choses-là. Et je pense que, oui, je suis très croyante, mais je ne fais pas les choses que les religieux font.
Et vos enfants, vous les éduquez comment ? Sur le plan précisément de la foi, de la spiritualité ?
Ils sont très laïcs parce qu'ils étaient éduqués. Mais moi et mon mari, ces dernières années, on est plus spirituel, alors un peu ils se moquent de nous, et surtout les grands.
Comment vivez-vous la question de la paix, hein, puisque vous êtes dans un kibboutz où il y a des tirs de roquettes, vous êtes tout près de Gaza. Comment vivez-vous ce manque de sécurité quand même s'il y a l'armée, comment vivez-vous cela, d'autant que vos enfants y habitent aussi?
Alors, il y a beaucoup de pression. Et il y a des périodes qu'il y a les roquettes, c'est pas sympa du tout, c'est pas marrant. Dans tout le kibboutz, on est à peu près 600 personnes, il y a à peu près 10 abris. Et nous, on a la chance que dans notre maison, il y a une chambre comme ça. Mais la majeure part des gens, ils doivent courir à l'abri. Et les roquettes ne sont pas à des heures très ordinaires. En général, c'est en pleine nuit ou le matin très tôt et les gens en pyjama. Et ça peut prendre les gens quand ils sont dans la douche, aux toilettes, déshabillés. Et on a 45 secondes à rentrer à l'abri. C'est pas marrant du tout. Et les sirènes sont fortes, les enfants ont peur. Je sais qu'en France, beaucoup de gens pensent que Israël est agressive, attaque, mais je pense qu'on ne vous montre pas la vraie façon. Ce que nous, on sent que nous, on essaye vraiment de protéger nos citoyens et on a des terroristes tout autour de nous qui font tout avec tous les moyens pour nous tuer. Ça veut dire qu'ils envoient leurs enfants avec des bombes dessus à s'exploser, et ceux qui envoient leurs enfants reçoivent beaucoup d'argent, et les mères sont très gaies et disent avec gaieté qu'elle a 3 enfants qui sont morts pour la guerre sainte. Et nous, on ne peut pas comprendre ça. Nous, jamais on pourrait envoyer notre enfant s'exploser, mourir pour recevoir de l'argent et, avoir de l'honneur. C'est inhumain, je pense. Et c'est des choses que vous voyez moins. Ils prennent des ambulances et mettent des femmes comme si elles étaient enceintes et leur mettent des bombes dedans pour passer la frontière. Et toutes sortes de choses que... Vraiment, c'est moche, c'est moche. Le Hamas, quand il y a une place qu'ils font toutes sortes de bombes ou de roquettes, et ils ont peur qu'Israël vont attaquer cette place, alors ils font le terreur à leurs citoyens et les emmènent là-bas. Et les femmes et les enfants doivent être là-bas, à la place qu'ils savent qu'Israël va attaquer. Et si Israël attaque, il y a des enfants et des femmes là-bas. Et c'est des jeux très sales. On ne peut pas comprendre ça. Nous, on essaie de protéger les citoyens. Et eux, ils essayent d'user les citoyens. C'est terrible. Et ils vivent tous en terreur. Ils ont peur. Les citoyens ont peur. Ils savent que s'ils ne feront pas ce que Hamas leur dit, ils vont être tués. Alors, ils vont être tués de toute façon. Ou comme ça, ou comme ça. Ils sont pauvres. Pauvres, vraiment pauvres.
Comment vous voyez la paix? Comment vous la voyez? Est-ce que vous voyez une issue? Est-ce que vous êtes comme votre mère? Vous vous dites, oui, un jour, ça doit arriver.
Je pense que tout le monde veut vivre en paix, calme, tranquille, ne pas avoir tout le temps peur que quelque chose terrible se passera. Mais la situation semble qu'avec le temps qui passe, de pire en pire, plus extrême. Et moi, je ne vois pas que ça va à une bonne direction. Je vois que ça va à une direction pire et pire.
Et ça vient de quoi, selon vous?
Je pense que, d'abord, par le terreur, qu'on ne peut pas communiquer avec des terroristes qui font tout ce qu'ils peuvent pour nous tuer. Et maintenant, d'abord, ils disaient tous les juifs à la mer, et ils disaient qu'ils veulent qu'il n'y ait pas d'Israël et c'est la Palestine et qu'ils veulent nous tuer tous. Maintenant, ils ne le disent pas, mais ils le pensent. Ils disent qu'ils veulent parler, qu'ils veulent quelque chose, mais en réalité, ils essayent de nous tuer. Et c'est terrible.
Pour vos enfants, vous voyez leur avenir en Israël ou à l'étranger?
On aime Israël. J'espère qu'ils seront en Israël, mais la situation de sécurité en Israël n'est pas plaisante. C'est pas une bonne ambiance à éduquer des enfants. Qu'il y a des roquettes, qu'ils ont peur, que dans la rue, ils doivent tout le temps regarder et se méfier s'il n'y a pas de terroristes. Et c'est terrible. On ne doit pas vivre comme ça. Chacun veut vivre en paix et en calme et avoir confiance aux gens autour de lui.
Glilia, Vardit et leur mère Esther, 3 voix, 3 visages d'Israël en ce 70e anniversaire. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Cécile Bonissi vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.